RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir les auditeurs, bienvenue dans le programme du journal. On commence par le titre. Muldoko a dit que la démocratie indonésienne est admirée par le monde. Biopharma s'engage à produire des vaccins halal. PMI est appelé à créer des jeunes entrepreneurs. Voici le journal complet. Le chef du bureau du personnel présidentiel, Muldoko, a dit que la communauté internationale et des pays amis admirent la démocratie en Indonésie. Il a eu cette impression quand il a représenté le président Joko Widodo au sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert tenu en Géorgie il y a quelque temps. À cette occasion, il a parlé du succès de l'Indonésie à organiser des élections locales dans 171 régions simultanément. Cela a été dit par Muldoko dans une déclaration écrite reçue Antara vendredi. Selon Muldoko, le climat politique actuel en Indonésie peut être augmenté en même temps que le début d'enregistrement des candidats du président et vice-président 2019 à 2024 du 4 au 10 août. La maturité démocratique de l'Indonésie devient la tension du monde, maintenant sera testée. La démocratie en Indonésie est maintenant très mature parce qu'il n'y a pas de conflit horizontal. Muldoko espère que la réalisation de l'Indonésie pourrait être un exemple pour d'autres pays du monde, notamment en termes de la conductivité au cœur du processus des élections. Le président directeur de PT Bio Farma, Rahman Rustan, a exprimé l'engagement de son entreprise à fournir des vaccins halal. Il a déclaré à Jakarta récemment que Biopharma enregistrait progressivement la certification halal pour les produits vaccinaux qu'elle produisait. Rahman a souligné que le processus de certification halal avait été réalisé par étapes car il restait encore plusieurs composants du vaccin importé et il avait besoin de documents de matières premières provenant d'autres pays. Actuellement, Biopharma mène des recherches de développement pour produire des vaccins MR qui devraient être achevés progressivement en 2020 et 2024. Rahman a expliqué les recherches menées par Biopharma sur la production de vaccins MR en évitant les substances non halal dérivées d'animaux. Selon lui, sur les 57 pays membres de l'OCSI, seulement 7 pays qui ont des usines de vaccins. Parmi les 7 pays, ce n'est que l'Indonésie dont les produits vaccinaux de base sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Ali Mashkur Musa, l'ancien membre de la commission d'audit de la République d'Indonésie, a demandé à Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ou PMII, ou le mouvement des étudiants islamiques d'Indonésie, de participer au développement et à la croissance d'entrepreneurs parmi les jeunes. Cela a été déclaré par Ali Mashkur Musa, qui était le président général de PBPMII pour la période en 1991 à 1994, aux cadres, aux administrateurs et aux jeunes entrepreneurs du PMII lors de l'événement École milliardaire de PMII à Jakarta vendredi. Ali Mashkur a aussi rappelé que si nous devenons des jeunes entrepreneurs, nous devons avoir l'esprit d'acier et être forts et ne jamais perdre notre élan. Une cinquantaine de jeunes entrepreneurs de PMII ont participé à une école milliardaire dont le thème est « Jeune, riche et sage ». Les activités ont eu lieu du 2 au 5 août 2018 à l'hébergement de la patrie du ministère social de la République d'Indonésie qui ont permis de présenter des interviewés, entre autres, l'ancien membre de la commission d'audit de la République d'Indonésie, BPKRI Ali Mashkur Musa, le ministre de la Main-d'œuvre, Hanif Dakiri, le président commissaire de PT POS Indonésie, Adin Jauharudin, et le commissaire de la Commission de surveillance de la concurrence commerciale, ou KPPU RI, Dr. Afif Hasbullah. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir tout le monde. Voici le programme de la mise au point de la semaine, dont le titre d'aujourd'hui est « Le président a assisté à la commémoration de zikir et de prière pour accueillir le 73e anniversaire de la République d'Indonésie ». Le président Joko Widodo, ou Jokowi, et le vice-président, Yusuf Kalla, a assisté à la commémoration du zikir et de prière pour la nation, qui est une série d'événements pour accueillir l'anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie en 2018 sur la première cour du palais présidentiel Jakarta, mercredi, le 1 août, nuit. Lors de le discours, le président a invité à être reconnaissant pour la grâce de Dieu donnée à la liberté de 73 ans. Deuxièmement, le président veut rappeler à tous que l'État indonésien est un pays vaste et diversifié. À cette occasion, le président a rappelé aussi qu'il y a beaucoup de différences comme la race, la langue, les coutumes, les traditions et la religion. Le président a déclaré que cette condition est un cadeau donné par Dieu à la nation de l'Indonésie qu'on devrait être reconnaissant. Selon lui, la conscience comme une grande nation devient la principale chose par rapport à d'autres pays tels que Singapour et en Afghanistan qui ont moins de pièces. Les différences seront une force et le potentiel si le peuple indonésien a unir parce que le plus grand atout de cette nation est l'unité, l'harmonie, la fraternité et d'abondantes ressources naturelles données par Dieu. Le chef de l'État a affirmé l'importance de maintenir la fraternité islamique et la fraternité watonia comme une valeur clé de l'unité, l'harmonie et la fraternité doit être maintenue. Selon lui, la tenue d'élections générales ne devrait pas faire le lien entre voisins ou entre villages fissurés. Il a rappelé que la grâce de Dieu donnée à la nation de l'Indonésie, l'indépendance, obtenue par une très longue lutte. Le président a ajouté que beaucoup de combattants, les héros, les chefs religieux et les étudiants islamiques ont été tués au combat. Selon lui, comme une forme de fraternité et compatriote, nous devons assumer la bonne foi, le respect mutuel, la compréhension d'esprit. Il a également ajouté que le processus démocratique ne devrait pas provoquer le conflit entre les résidents. tandis que le président du Conseil des ulémas indonésiens, Ma'ruf Amin, espère qu'en organisant cet événement pour accueillir le 73e anniversaire de l'indépendance, il y aura l'aide d'Allah au peuple de l'Indonésie. Ma'ruf a expliqué que cet événement de prière est un programme de routine souhaité par le président Joko Widodo pour accueillir l'anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie. Accompagnant le président et le vice-président dans cet événement, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, le ministre de la Religion, Lukman Hakim Saifuddin, le commandant de l'armée de l'air indonésienne, Marekal Hadi Cahyanto, le chef de la police nationale, le général Tito Karnavian, le chef du bureau de la présidence, Muldoko, le président du MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Voilà la mise au point de la semaine.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans l'émission de l'histoire d'aujourd'hui, le 5 août. On commence par le 5 août 1960, l'indépendance du Burkina Faso. Pendant le royaume, le Burkina Faso a été nommé le royaume de Mossi, qui a ensuite été colonisé par la France et est devenu un protectorat. En 1904, ces régions rejoignent l'Afrique orientale française dans la colonie Sénégal, au Niger. La colonie a été démantelée le 5 septembre 1932 et la zone a été divisée entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et le Niger. Le 4 septembre 1947, Volta Hulu a été recréé à partir de ses frontières en 1932. Le 11 décembre 1958 est devenu une république et a rejoint la société franco-africaine et a obtenu son indépendance le 5 août 1960. Le 5 août 1962, le président indonésien Sukarno a inauguré l'Hôtel Indonésie. L'Hôtel Indonésie est un hôtel à 5 étoiles qui a été construit pour la première fois en Indonésie et le premier en Asie du Sud-Est. L'initiateur est Sukarno, le premier président de la République d'Indonésie. Cet hôtel a été inauguré par le président Sukarno le 5 août 1962 pour accueillir les 14e Jeux asiatiques en 1962. Le bâtiment de l'hôtel Indonésie a été conçu par l'architecte Abel Sorensen et sa femme Wendy des États-Unis. Comme le plus ancien hôtel à 5 étoiles en Indonésie, l'hôtel a été désigné comme un édifice patrimonial par le gouvernement régional de Jakarta par l'intermédiaire le décret du gouverneur de Jakarta numéro 475, le 29 mars 1993. Le 5 août 2003, l'attentat à la bombe de JW Marriott. C'est un attentat suicide islamiste à la voiture piégée. Il a eu lieu peu avant midi, causant la mort de 14 personnes et 156 blessés. L'explosion a tué 14 personnes et blessé 156 personnes. La source de l'explosion provient de la voiture piégée Toyota Kijang. À la suite de cet acte terroriste, l'hôtel a été fermé 5 semaines et a été réouvert le 8 septembre 2003. Hôtel JW Marriott est situé dans la zone du Triangle d'Or, à proximité du complexe des hauts fonctionnaires dans la rue Denpasar et le complexe de l'ambassade étrangère, entre autres l'ambassade de Finlande, l'ambassade de Suède, de Norvège et de Pérou. Environ 200 mètres de Mario et l'ambassade de Chine. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans la rubrique de mon Indonésie. Et le titre d'aujourd'hui est l'Indonésie prête à accueillir les Jeux Asiatiques de 2018. Les auditeurs, le président Yusuf Kalla a été sûr que l'Indonésie était prête à accueillir les Jeux Asiatiques de 2018 qui aura lieu le 18 août 2018. Divers aspects tels que l'infrastructure, le lieu et l'organisateur sont prêts. Ceci a été transmis par Yusuf Kalla après une réunion avec la préparation des Jeux Asiatiques 2018 à Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta du Sud, vendredi le 3 août 2018. Yusuf Kalla a également observé les maisons des athlètes, Kali Item et de sites des Jeux Asiatiques dans le complexe de Gelora Bung Karno. Il a ensuite mis en évidence la rivière Sentiong ou Kali Item qui est près de la maison des athlètes de Kemayoran. La rivière qui est maintenant fermée par des toiles, selon lui, elle n'a plus de l'odeur. Yusuf Kalla espère que le contingent des athlètes indonésiens pourront présenter les meilleurs résultats. Il vérifiera également la préparation des Jeux Asiatiques. Le ministre de PUPR, Basuki Hadi Mulyono, a ajouté que tous les sites avaient été achevés et l'arène sportive de squash à Gelora Bung Karno a été achevée il y a 2 semaines. L'arène sportive de Jakabaring, Palembang, a également été achevée. Tandis que Mulyana, l'adjoint à l'amélioration des réalisations sportives lors de la réunion de coordination technique du personnel des médias au Beleza Suite de Jakarta, jeudi, le 2 août 2018, a déclaré que les hôtes indonésiens visaient le top 10 aux Jeux Asiatiques de 2018. On espère que 4 nouveaux sports qui sont le pilier de l'Indonésie, deviennent une grange de médailles, ainsi que les contributions des sports qui ont été la force traditionnelle de l'équipe rouge et blanche. Il est optimiste quant à la possibilité d'atteindre l'objectif de top 10 en vue des réalisations de l'Indonésie lors de la précédente édition des Jeux Asiatiques à Incheon, en Corée du Sud. Lors des Jeux Asiatiques de 2014, 36 sports ont concouru dont le total d'événements est 439. Le contingent rouge et blanc a terminé à la 17e place avec 4 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. À l'édition des Jeux Asiatiques cette fois, on ajoute 4 sports, alors il y aura 40 sports avec 465 numéros d'événements. 4 autres sports principaux indonésiens sont le pencaksilat, le jet ski, le parapente et le bridge. Mais Mulyana a dit si les 4 sports ont échoué, il y avait toujours les sports principaux qui ont eu la chance de donner des médailles d'or à l'Indonésie. Ces sports traditionnels sont le taekwondo, le wushu, le bowling, le badminton, l'escalade, etc. C'est-à-dire, si ces 4 sports sont manqués, son côté peut prendre d'autres sports. C'est tout mon Indonésie.
Kuatkan hatimu, dalam semangatmu tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans Le Magazine Culturel, qui va vous donner des informations sur la plage de Kencana de Sumbawa. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Sumbawa est très célèbre pour sa beauté naturelle, en particulier la beauté naturelle de la plage. La plage de Kencana, la plus belle plage de Sumbawa visitée par de nombreux touristes, est l'une des plus célèbres plages. La plage de Kencana présente la beauté de la plage et du sable blanc magnifique. Pantai Kencana ou la plage de Kencana est différente des autres plages. Cette plage est de forme incurvée et chacune des deux extrémités de la voûte a son propre charme. Surtout à côté droit de l'arc, il y a un rocher en forme de grand trou causé par les vagues. L'eau de mer est très claire, même à la surface de l'eau, on peut y voir le biote marron. Mais vous devez faire attention lorsque vous jouez sur la plage de Kencana, car cette plage est raide. La beauté de la plage de Kencana n'est pas seulement en surface. Le panorama sous-marin est également très beau. Si vous voulez le voir, vous pouvez louer du matériel de plongée en apnée autour de cette plage. En raison de sa beauté, cela ne suffit pas si nous restons là un moment. Vous pouvez également passer la nuit sur cette plage en faisant du barbecue avec vos amis et votre famille, car il y a beaucoup d'hébergements. Il y a aussi des restaurants et plusieurs boutiques qui offrent des divers souvenirs. Pour y aller, ce n'est pas difficile car la plage de Kencana est située à environ 11 km seulement de la ville de Sumbawa Besar, Sumbawa, à Nusa Tenggara de l'Ouest. Pour y arriver, l'itinéraire se fait de la route provinciale en direction du port de Pototano jusqu'au port de Badas. De là, vous pouvez marcher environ 500 mètres à l'ouest. Puis vous trouverez l'entrée de la plage de Kencana. Les auditeurs, si vous prenez un véhicule, vous n'avez pas besoin que d'environ 20 minutes. Pour entrer dans cette plage, vous devez seulement payer 2000 roupies par personne. Même en transport en commun, vous pouvez accéder à cette plage dont le coût est d'environ 5000 roupies par personne. De plus, vous pouvez également prendre un taxi ou en moto. Si vous allez avec votre famille ou vos amis, n'inquiétez pas au problème de véhicule. À Sumbawa, il existe de nombreux types de services de location de véhicules disponibles dont le coût est environ 400 000 roupies à 500 000 roupies par jour. C'est inclus de chauffeur. Vous n'avez donc pas à vous soucier de trouver l'itinéraire car les chauffeurs connaissent très bien le chemin qu'ils passeront. Les auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui dont le sujet est la plage de Kencana située sur l'île de Sumbawa. Si vous aimez la plage, visitez la plage de Kencana sur l'île de Sumbawa. Demain, nous allons nous rencontrer avec d'autres sujets intéressants. À demain!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vais parler de trois étudiants de ITS ou l'Institut Technologie de 10 novembre, créer de l'énergie renouvelable à partir de gouttes de canne à sucre. Restez toujours avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. La disponibilité de l'énergie, l'accès abordable à l'énergie ou résilience alimentaire font partie des problèmes rencontrés par la communauté mondiale, y compris en Indonésie. Par exemple, le mazout, la disponibilité en gaz et en électricité, la diminution des sources pétrolières en tant que matière énergétique encourage diverses parties à la recherche d'énergie alternative. Comme on le sait, les besoins en électricité en Indonésie augmentent chaque année. On estime que les réserves de pétrole sans nouvelle exploitation ne peuvent durer que les 21 prochaines années. Par conséquent, des innovations énergétiques alternatives sont nécessaires pour résoudre le problème du pétrole limité. Des étudiants de l'Institut de technologie 10 novembre ou ITS Surabaya font de l'innovation en transformant les gouttes de canne à sucre en énergie électrique. Trois étudiants du département de génie chimique de l'Institut de technologie 10 novembre, à savoir Martiana Nugraini, Triwahyuning Eka Purnamasari et Chandra Adiwijaya, ont fabriqué de l'énergie renouvelable à partir de déchets de mélasse et de déchets de métaux lourds. La mélasse est un sous-produit de l'industrie de la canne à sucre qui contient encore du sucre et des acides organiques, en Indonésie, connue sous le nom de goutte de canne à sucre. Selon Triwahyuning Eka Purnamasari, l'utilisation des déchets de mélasse en Indonésie est encore très peu. Chaque hectare de terre de canne à sucre peut produire de 10 à 15 tonnes de mélasse. Les déchets de canne à sucre transformés ont une teneur élevée en cellulose comme la source de biomasse renouvelable. La Direction générale de l'agriculture estime que la superficie des terres de la canne à sucre en Indonésie en 2016 a atteint plus de 482 000 hectares. Si elle est utilisée, cela peut être l'une des sources d'énergie renouvelable. Triwahyuning a également expliqué les dangers des déchets toxiques et dangereux, ou B3, tels que le chrome. Le chrome de métal lourd se trouve souvent dans l'environnement en raison de l'utilisation de produits chimiques dans l'industrie. Le chrome est un déchet B3 avec une toxicité élevée qui peut mettre en danger la santé humaine. Concernant ces deux problèmes, Tri et ses collègues ont proposé une solution innovante de MFC comme système de recirculation en continu. Les MFC sont des piles à combustible à base de biologie qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique à l'aide de réactions catalytiques de micro-organismes. Chers auditeurs, voilà Warna Warni ou l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se retrouvera encore avec les autres sujets intéressants. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons présenter The Finest Tree, un duo indonésien composé de deux frères. Ils sont Chaka Nuraga et Elang Nuraga. The Finest Tree, ou TFT, a été créé le 20 mars 2012. En décembre 2012, ils ont lancé un album intitulé Hijau The Finest Tree. La chanson intitulée Tolong Lepaskan, ou en français S'il te plaît, libère, a été publiée en août 2017. Cette chanson créée par Elang raconte deux ralentissements. Chers auditrices et auditeurs, on écoutera la chanson de Finest Tree intitulée Lupa Bawa Nyali, ou en français Oublier d'apporter des tripes. Bonne écoute!
Setiap kali ku melihatmu sesak napas dan kehilangan arah. Tolong, tolong, tolong bantulah aku berdiri tegak dengan dua kakiku. Hey little baby, kau membuat napas ini lepas dan tak terkendali. Coba kulihat depanmu, jantung terasa lepas, napas tak terkendali, nervous mendera sekujur tubuhku. Pasti begini, oh pasti begini, tiap aku mencoba kulihat depanmu. Kata yang ku siapkan hanya begitu saja, di depanmu aku seperti tak berarti.
Aku selalu lupa bawa nyali.
Merci à toutes et à tous qui ont envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Je voudrais profiter de cette occasion de saluer les auditeurs. Jean-Marie Montblot, 409 Faubourg Montmélian, de 73000 Chambéry, France. Et Farid Boumechal, de la rue de la Mosquée, numéro 6 Parc à Fourage, Batna, 05000 Algérie. Et Vincent, 14 rue Camille Saint-Saëns, de 9400 Courbevoie, France. Et Jean-Michel Aubier, 13 route de Brest, 18340 Alsace, la France. Chers amis, on écoutera la deuxième chanson intitulée Tolong lepaskan, ou en français, s'il te plaît, libère. Bonne écoute. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie et meilleures salutations à Maurice Mercier, de 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche, La France, et Abdelkader Khalil, BP 669 Ouadjia, Algeria, et Omar Lassas, BP 530 Bureau de Poste Emir AEK 29008 Mascara, Algérie, et Sergi Giovanni Fia Sibari 39849 Messina, l'Italie. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci de continuer à suivre nos programmes et on écoutera des chansons suivantes intitulées Sedikit Waktu ou en français Peu de temps et Kau dan Aku ou en français Toi et moi. Bonne écoute et à bientôt.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Mas, wifi-nya di sini nyala nggak ya?
Ya.
Aku ingin cepat pulang untukmu. Semoga jaringanku menyampaikan padamu. Perjalanan jauh tak membunuh rinduku. Jauh nafas ini doaku kepadamu, untuk kerangka mimpi yang ku bicarakan. Sunset hari ini telah mengingatkanku betapa hebatnya tatapan itu. Kau dan aku kan kembali bersama. Kau dan aku tinggal tunggu waktunya. Kau dan ada tuh selamanya. Kau tahu. Jauh nafas ini doaku kepadamu, untuk kerangka mimpi yang ku bicarakan. Sunset hari ini telah mengingatkanku betapa indahnya tatapan itu. Kau dan aku kan kembali bersama. Kau dan aku tinggal tunggu waktunya. Kau dan aku ada tuh selamanya. Kau tahu.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Keterbatasan ini, apa yang kau pelajari? derasnya harus kita hadapi. Tak mudah menjalani cerita ini. Di hari keterbatasan ini, ambil semangat hati. Semua yang kamu percayai menuntun langkahmu pulang di sini. Kita bersama. Merasakan itu cinta. Percaya kebaikan Tuhan. Percaya akan doa pada Tuhanmu. Aku pun mencoba dengan caraku. Kita
merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.